Bonjour, je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé vendredi passé. Commençons par prier le Seigneur. Jésus, je te prie de nous aider à comprendre les choses que je vais dire ce soir. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais je crois qu'elles ont été largement oubliées. Et je te prie, mon Dieu, de rappeler à nos cœurs l'importance qu'elles ont. Merci, Jésus. Amen. Je vais lire dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8. On va déjà lire un peu avant. On va lire 2 Thessaloniciens 1, 5. Allons-y. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Oh, obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En général, on parle plutôt de croire à l'évangile, croire à la bonne nouvelle, l'évangile signifiant bonne nouvelle. Oui, mais croire implique la soumission à l'autorité de Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas, vous avez vu dans le texte, ils sont appelés des rebelles. Paul dit par ailleurs que la colère et l'irritation sont réservées à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Romains 2, 8. Alors, Jésus dit de lui-même « Je suis la vérité ». Un rebelle à la vérité, c'est donc un rebelle à Jésus. La colère et l'irritation sont réservées à ceux qui sont rebelles à Jésus. Qu'est-ce que nous disent ces textes sacrés? Eh bien, que la purification se fait par l'obéissance. Alors, j'entends déjà d'ici là les protestations, non, Michel, nous sommes purifiés par le sang précieux de Jésus. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais si après avoir été purifiés par son sang, nous retournons à notre façon de vivre d'autrefois comme des rebelles, nous nous souillons à nouveau. En vérité, nous sommes tous purifiés par le sang de Jésus-Christ et nous demeurons purs par notre obéissance à Jésus-Christ. Vous voyez, la foi et l'obéissance, ça va ensemble. Personne ne peut dire en vérité « j'ai la foi » s'il désobéit. Je crois qu'on devrait changer quelque chose dans les termes. Déjà, vous avez entendu dire que j'aime pas qu'on dise « Michel Genton est chrétien ». Je préfère qu'on dise « Michel Genton est un disciple de Jésus-Christ ». Et je pense qu'on devrait changer aussi quelque chose parce qu'il serait plus convenable d'appeler les croyants ceux qui obéissent. Plutôt que de dire « je suis croyant », on devrait dire « je suis un de ceux qui obéissent ». Parce qu'en fait, c'est ainsi que Jésus appelait les siens. Il appelait ceux qui le suivaient, ceux qui croyaient en lui, qui lui faisaient confiance. Il les appelait mes disciples, c'est-à-dire mes soumis, mes obéissants. Hein? Si vous faites ce que je vous dis. Si vous faites ce que je vous dis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Parce qu'en vérité, si nous devons croire au Seigneur, nous devons également être soumis à son autorité. Sinon, on croit à l'histoire, voilà, historiquement, il y a eu un homme qui s'appelait Jésus, qui était fils de Dieu, tout ça, on croit historiquement Jésus, mais qu'est-ce que ça change dans notre vie? Regardez Paul. Après avoir été éclairé, qu'est-ce qu'il fait? Il demande « Que ferai-je, Seigneur ?» Acte 22, 9. Il ne se contente pas seulement de croire. On nous dit toujours « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, crois. » Non, il ne se contente pas seulement de croire, il se met aussi à obéir. Sa repentance, donc, elle consistait non seulement dans sa compréhension de la grâce et de la personne de Jésus-Christ, mais aussi dans son obéissance à l'autorité de Dieu. Que ferais-je? Que ferais-je? Alors, dès qu'il a compris que Jésus était le Sauveur, il s'est adressé à Jésus comme à son Seigneur. Alors, Qu'est-ce que veut Jésus? Qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, il ne nous appelle pas simplement à recevoir sa vie par le moyen de la foi, mais également à maintenir son autorité par le moyen de notre obéissance. Et à nous, qui sommes membres de l'Église, de son Église rétablie selon l'ordre de Actes 2 et 4, il nous demande d'obéir aux autorités qu'il a établies. Dans notre foyer, dans notre famille. Ah, je sais, beaucoup n'aiment pas ça. Chef de famille, c'est l'homme. À l'école, Jésus nous demande d'être soumis, d'obéir aux autorités qu'il a établies dans l'école. C'est les profs qui font la loi, c'est pas les élèves. Un élève qui perturbe un cours, qui fait le clown, eh bien c'est un rebelle. Et la Bible dit, l'irritation et la colère de Dieu est contre ceux qui se rebellent, qui ne sont pas soumis à l'autorité. Dans la société, je ne vais pas vous permettre de faire n'importe quoi en société. Il y a des autorités, il y a la police qui est là. Dans la communauté aussi, il y a une autorité. Alors tout en continuant à obéir à son autorité directe, nous devons être soumis à ses autorités indirectes. Parce qu'il le veut, il dit « soyez soumis aux autorités ». Un croyant, il doit comprendre que chaque fois qu'il rencontre l'autorité de Dieu, directement ou indirectement, il doit apprendre à lui obéir. Ah, c'est pas facile. Et Jésus aussi, il a dû apprendre par les choses qu'il a souffertes. Il n'est pas question dans l'Évangile de se permettre de prêter l'oreille et puis d'obéir si ça nous plaît et puis d'essayer de patienter les gouttes et puis de s'arranger. Non. Alors certains disent oui, mais il y en a qui font de l'abus de pouvoir et moi je veux pas suivre un homme, je veux suivre Dieu. Ah voilà, la belle chose. Alors Dieu envoie des prophètes, ils disent non, je veux pas suivre le prophète, je veux suivre Dieu. Quelle histoire! Mais quelle histoire! En général, vous savez, les gens qui parlent comme ça, c'est juste une excuse pour pas avoir à obéir, parce que le prophète leur demande une chose qu'il n'aime pas beaucoup, etc. C'est à l'autorité que vous devez obéir, pas à l'homme. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'autorité déléguée par Dieu, c'est que vous avez une mauvaise grille de lecture de la Bible. Ou peut-être tout simplement que vous ne connaissez pas la Bible. Parce qu'une personne qui sait ce qu'est l'autorité, d'après ce que la Bible dit, mais se sent coupable de rébellion dès qu'il se met à commettre la plus petite, la plus légère désobéissance. Une femme qui ne se soumet pas à son mari, si elle sait ce que c'est que l'autorité d'après la Bible, mais se sent coupable. Elle va sur ses genoux, elle demande pardon d'avoir fait quelque chose de mal. Les autres, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'autorité d'après la Bible, ils ne comprennent pas l'importance de leur rébellion. Et en dessus d'eux, il y a l'irritation et la colère de Dieu. Bon, on va regarder encore Paul. Regardons Paul. Avant d'être éclairé, la Bible nous dit « regimbait contre les aiguillons ». Il regimbait. Mais il ne réalisait pas vraiment ce qu'il était en train de faire. Au contraire, il pensait qu'il faisait quelque chose de bien pour Dieu. Vous voyez comment on peut être nouille. Mais dès que ses yeux se sont ouverts à la réalité de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'Évangile, c'est-à-dire de Jésus, la première chose qu'il a vue, c'était l'autorité. Seigneur, que dois-je faire ? Immédiatement. Et alors, il a rencontré un homme tout simple, un bonhomme qui s'appelait Ananias. C'était pas le même que Ananias et Saphira, c'était un autre Ananias. C'était un homme humble, Ananias. Eh bien, Paul, il n'a pas remis en question ce qu'Ananias lui a dit de faire. Il n'a pas dit « Oui, mais à quoi ça sert d'aller me faire tremper dans l'eau ? Et puis à quoi ça sert ? Et puis cet Ananias, ben bon, il n'a pas le même niveau d'études que moi, qu'est-ce qu'il va m'en apprendre ? Et puis, je vois bien dans ses manières, il n'a pas une éducation aussi excellente que la mienne. » Non, il a obéi parce qu'il voyait, parce qu'il a reconnu l'autorité de Dieu dans cet homme. Il ne regardait pas l'homme, il voyait l'autorité qu'avait cet homme. Paul reconnut simplement qu'Ananias était envoyé de Dieu. Il a reconnu que c'était un envoyé de Dieu. Aujourd'hui, juste une petite réflexion que je me faisais parce que je suis allé dans un monastère avec mon ami Marc et mon ami Kilian Croza, il y a quelque temps en arrière. Je suis allé dans un monastère bénédictin et là, on a vu comment ça se passe et c'est vraiment formidable. Et alors, il parle des saints, alors saint un tel, saint machin, voilà, il y a eu un miracle extraordinaire et tout. Alors, vous avez quelqu'un qui fait un miracle chez les catholiques, on en fait un saint. Aujourd'hui, dans les milieux de soi-disant charismatiques, vous faites un miracle, on dit que vous êtes diabolique. On vous diabolise, on dit « Oh là là, attention, oui, non, mais alors, oh là là !» On ne reconnaît plus l'autorité, non. Paul, il a simplement reconnu qu'Ananias était un envoyé de Dieu. Je vous disais que, vendredi passé, je vous disais qu'il est facile d'obéir pour celui qui a appris ce qu'est l'autorité. Je vous le redis, c'est facile d'obéir quand on a appris ce que c'est l'autorité. Dans l'histoire, quand l'apostasie est venue, l'Église s'est divisée. Il y a eu la vraie Église de Jésus-Christ d'un côté, persécutée, et puis la fausse Église qui s'est organisée, qui est devenue ce qu'on sait aujourd'hui, avec toutes ses filles, parce qu'il y a la mère, et puis il y a toutes ses filles, hein, tous ces histes et tous ces machins, toutes ces organisations. Et comme la fausse Église refusait et refuse toujours d'accepter l'autorité de l'Évangile, c'est-à-dire de la parole de Dieu, elle refuse l'autorité de Dieu, eh bien, Dieu n'a plus de moyens pour établir son royaume sur terre, en tout cas pas au travers d'elle, c'est pas possible. Le plan de Dieu, c'est d'établir son royaume, premièrement par Jésus-Christ, qui a lui-même appris l'obéissance. Ensuite, ce plan continue et il établit son royaume par les disciples qui apprennent l'obéissance. Et puis il finira par établir son autorité sur tout. Un jour, tout le monde entendra cette parole d'Apocalypse 11:15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, son roi. C'est pas encore chose faite parce que l'Église n'est pas encore assez obéissante. Ça doit passer par l'Église. Ça a passé par Jésus pour qu'il puisse y avoir l'Église et l'Église doit être obéissante pour pouvoir ensuite, pour pouvoir faire que le royaume s'établisse sur le monde. Quelle est la place de la communauté, de l'Église rétablie? Eh bien, elle occupe la place intermédiaire entre le royaume qui résiste dans la personne de Jésus-Christ et l'extension future de ce royaume qui va se manifester comme étant le seul et unique royaume de l'univers. Il fallait premièrement que ce royaume soit trouvé en Christ, que lui-même soit obéissant et obéissant jusqu'à la mort, sans discuter. Avant de pouvoir être établi au sein de son Église, de l'Église de Jésus-Christ, l'obéissant, pas le croyant, l'obéissant. Donc, premièrement, il fallait que le royaume soit trouvé en Christ avant d'être établi au sein de son Église et avant de pouvoir être établi à toutes les nations. C'est ça le plan. Il ne peut pas y avoir d'Église vraie sans l'autorité de Jésus, sans l'autorité de l'Évangile, de la parole de Dieu écrite, il ne peut y avoir aucune extension du royaume de Dieu sans Église. Voilà. Pendant qu'il était sur la terre, le Seigneur Jésus a obéi à Dieu, et même pour des questions, on pourrait dire, pas très importantes. Par exemple, il a payé la taxe, l'impôt relatif au temple, et comme il n'avait pas d'argent sur lui, il a trouvé une pièce dans la bouche d'un poisson, vous vous rappelez de l'histoire, il a aussi payé la taxe à César. Et il nous dit de le faire aussi, d'y rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est donc Jésus qui montra qu'il devait y avoir une division entre l'Église et l'État. Et puis si on y réfléchit bien, César, c'était un rebelle. Oui, c'était un rebelle, mais il avait été établi par Dieu. C'est ce que Paul nous dit. Par conséquent, il convenait d'obéir à César. Maintenant, si César vous dit que vous pouvez avorter, eh bien, vous n'êtes pas obligé de lui obéir, vous devez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais il ne vous oblige pas à avorter, César. Ce n'est pas parce qu'il vous permet de le faire que tout à coup Dieu permet de le faire aussi. Il y a des degrés d'autorité. Vous devez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais vous ne devez pas désobéir aux hommes tant qu'ils sont dans la règle d'autorité divine qu'on trouve dans l'Évangile. Mes frères et sœurs, ce n'est que quand les siens, c'est-à-dire l'Église, se montrera parfaite dans l'obéissance que le Seigneur se lèvera enfin et s'occupera en particulier de ceux qui n'obéissent pas. C'est par le moyen de l'obéissance, de notre obéissance, que le royaume de Dieu pourra être établi, va pouvoir être étendu à toute la terre. Je vais terminer maintenant. Paul était sensible au péché, Paul était sensible à l'autorité. Si un homme n'est pas sensible au péché, il ne peut pas vivre comme un vrai chrétien. Et s'il n'est pas sensible à l'autorité, il ne peut pas être obéissant. Alors Dieu a envoyé ses serviteurs pour enseigner ces choses, parce qu'il faut que l'Église apprenne à être obéissante. Jésus, je te demande de tout mon cœur que ces paroles trouvent le chemin dans la conscience de ceux qui écoutent, et qu'ils se mettent à lire l'Évangile et les lettres de Paul et des autres, avec dans le cœur le désir d'obéir à tout ce qu'ils vont pouvoir lire. Je te demande dans le nom de Jésus, mon Sauveur. Amen et Amen. Au revoir.